Pour réussir le pass, il faut faire preuve de persévérance et de méthode. Mais rassure-toi, ça s'apprend. Ici Luca de la team Hermione et bienvenue dans Road to Numerus, le podcast dans lequel on décortique le succès d'autres étudiants qui ont réussi le pass. Ensemble, on va se plonger dans leur routine de travail pour que tu évites les pièges dans lesquels ils sont tombés et que tu profites de leurs meilleurs conseils pratiques pour réussir cette année. T'es prêt ? Parce que ça part de là. Quand t'arrives en passe, t'as l'impression de prendre une claque. C'est beaucoup de travail, c'est dur et c'est compétitif. Alors pour augmenter tes chances de réussite, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à travailler efficacement. Après avoir réussi la première année, on s'est réunis avec des professeurs et des spécialistes de la productivité et ensemble, on a créé la méthode PASS. C'est notre formation en ligne captivante qui te donne les méthodes pour travailler efficacement. En gros, on te prend par la main pour que tu passes d'un lycéen qui a du mal à travailler en un étudiant très productif. On t'apprend à t'organiser, à te concentrer et à mémoriser pour que tu gagnes des places au classement. Alors si ça t'intéresse, rendez-vous sur hermione.co. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Martin, qui était en terminale S au lycée Joffre à Montpellier et qui est maintenant en deuxième année de médecine à la WIC de Barcelone. Salut Martin.
Salut.
Bah écoute, toi, tu as eu un sacré parcours de ce que je vois. Ouais. Donc, tu as fait deux passes d'abord à Montpellier pour ensuite partir en Espagne. Avant qu'on parle un peu de ce super parcours, est-ce que tu peux me dire à la base pourquoi médecine ? Pourquoi tu es parti du lycée à PACES ?
Bah, c'est vrai qu'en général, j'ai toujours aimé aider les gens. C'est-à-dire que moi, je vis avec. Enfin, je vivais en tout cas à Montpellier avec deux sœurs. Et vu que j'ai mes parents qui travaillaient en général jusqu'à 20h30, je m'occupais toujours de mes sœurs. Et c'est un truc qui m'a jamais dérangé. En tout cas, j'aime bien aider les gens, même d'un point de vue d'éducation, et donner des cours à des gens, expliquer des cours aux gens. J'aime bien, en tout cas, aider. Et c'est vrai que avec la médecine, j'arrivais à trouver ce côté qui permet d'aider les gens et aussi un côté qui est pas mal... justement très intéressant parce qu'il y a plein de choses à apprendre en médecine, plein de choses qu'on connaît peu. Donc, c'est vrai que j'avais en même temps le contact humain qui était bien et en plus le côté académique qui est très intéressant et qui permet aussi de rester intéressé.
Ok. Donc, de base, comment dire, une passion de l'aide à l'autre déjà depuis toujours.
Ouais, je dirais ça.
Et une envie d'approfondir des matières peut-être scientifiques, un peu plus académiques.
Et oui, parce que ça reste toujours intéressant de voir comment fonctionne le corps humain ou comment fonctionne le monde en général.
Ok. Et alors dis-moi, comment tu as vécu cette transition du coup entre le lycée ? Je vois là, tu m'avais dit avant que tu étais un élève plutôt moyen, qui forçait pas trop, mais qui arrivait à avoir des bonnes notes, si j'ai bien compris.
Voilà, ouais.
Et alors, comment tu as vécu un peu cette transition du coup du lycée à ta première année ?
Bah, ça a été plutôt dur parce que justement, en sortant du lycée, j'avais beau avoir des bonnes notes. À la base, la PACES, c'est surtout quelque chose où il faut avoir une bonne mémoire et savoir travailler, savoir apprendre le plus efficacement possible parce qu'il y a une quantité de travail qui est très large et un temps très limité pour travailler tout ça. Et c'est vrai qu'en sortant du lycée, avec le peu de travail que je faisais, ça a été un peu la panique. Et ça a fait que forcément, je ne savais pas comment il fallait travailler, surtout quelles étaient les meilleures manières de travailler en PACES, puisqu'on partait du lycée, où c'est-à-dire que tout est coupé pour nous. On a des exercices, des cours avec 30 personnes dans une classe. Les profs, si tu as des questions, tu leur envoies, tu leur parles après cours, il n'y a pas de problème. Et passer de ça justement à PACES, où on avait déjà quelque chose qui est très important pour réussir à PACES, c'est les habitudes, avoir des habitudes toujours. Et le fait qu'en PACES, justement, les emplois du temps ne sont pas comme au lycée. Ce sont des emplois du temps où tu ne vas pas avoir l'emploi du temps de la semaine qui se répète toutes les semaines. Ils donnent l'emploi du temps du semestre avec tous les cours que tu auras tous les jours. Et du coup, il faut s'organiser en fonction de quel cours va arriver, à quelle partie du semestre. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine organisation que je n'avais pas quand je suis sorti du lycée.
Tout à fait. Tu as parlé d'habitude tout à l'heure. Ça, c'est un point que je voudrais aborder avec toi un peu plus tard. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi dans l'idée que bah, c'est ultra important. Mais je voulais revenir un peu sur bah, du coup, cette transition. Qu'est-ce que tu as dû changer par rapport au lycée? Du coup, tu me dis que l'emploi du temps a changé. Du coup, comment tu t'es adapté à ça?
Ce que j'ai dû changer déjà, c'était le rythme de vie en général, parce que le rythme de vie de lycée n'est pas du tout pareil que le rythme de vie de PACES. C'est-à-dire que en PACES, je vais faire des journées, en tout cas la première année, peut-être un peu moins. La première année, je devais faire des journées de 10 heures. Et ce qui s'est passé, c'est que la première année, on m'avait parlé de la PACES comme étant ce truc super compliqué. On m'avait dit, oui, il faut rester enfermé chez soi, faire que t'as fait. Et c'est le seul moyen de l'avoir. Je suis entré dans un PACES un peu avec cette idée-là. Et j'ai fait le premier semestre en restant enfermé chez moi, à travailler toute la journée sans prendre de pause. C'était vraiment pas du tout sain. Et ça s'est, en tout cas, ça s'est vu dans les résultats. Ça m'a pris pas mal de temps de m'adapter au rythme de la PACES. Moi, je dirais que ça m'a pris en tout cas ma première année, parce qu'en première année, je n'ai pas eu des résultats glorieux, mais je considère quand même ma première année comme une année qui m'a permis de savoir quelles erreurs j'avais faites et sur quel point je pouvais m'améliorer quand j'allais retenter ma PACES.
Ça, c'est vrai que c'est un point qui a été souvent abordé dans le podcast. Pas mal de gens qui me disaient que la première année, c'était un peu l'année crash test et qu'il leur a permis de vraiment s'améliorer et de tout défoncer à la deuxième année. Parce que maintenant, il faut se mettre un peu dans la peau du coup, des passes actuelles qui, eux, peuvent plus faire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de redoublement tel quel. Là, maintenant,
J'ai cru comprendre.
quand on ne réussit pas son passe, tu tombes dans la mineure. Donc, par exemple, je sais pas moi, sport, donc STAPS ou autre chose. Voilà. Pour la deuxième année. Et après, tu auras une chance plus tard de retenter. Mais bon, vu que tu seras dans ta mineure, tu seras peut-être moins concentré dessus et tout.
Oui, je vois.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils évitent les mêmes erreurs que tu as faites? Donc, quelles ont été les erreurs que tu as faites? Et qu'est-ce qu'ils peuvent éviter, eux, vu qu'ils n'ont qu'une seule année?
Je dirais qu'en terminale, je conseille en tout cas d'apprendre à travailler, d'apprendre à s'organiser et ne pas faire comme moi, du coup, qui, bon, j'avais des bonnes notes, ça ne me déplaisait pas, je ne travaillais pas plus que ça, donc j'étais content. Mais disons que ça a été plutôt une surprise en PACES, justement, du coup. Et que après avoir fait ma première PACES, c'est vrai que j'ai un peu regretté de même si c'est des choses qui ne m'intéressaient pas au lycée, de ne pas m'être plus penché dessus pour déjà avoir les bases du travail.
Ouais, carrément. Je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on est parti du même constat hein, avec Hermione. C'est que vraiment, quand t'as pas appris à être productif, à savoir apprendre, donc apprendre à apprendre en fait,
Oui.
quand tu l'as pas fait au lycée et que tu arrives en première année, vu que la charge de travail est aussi dingue et que la sélection est aussi rude, si t'as pas pris un peu d'avance, bah, tu vas te retrouver dans le même panier que tous ceux qui galèrent, quoi.
Exactement.
Donc, carrément, moi je suis 100% d'accord avec toi. C'est bien de se dire je vais me préparer quand je serai en première année, donc c'est-à-dire je vais m'adapter quand je serai en première année. Mais dans la vérité des choses, c'est qu'on a toujours trop peu de temps et que c'est bien mieux de se préparer et ce sera même bénéfique pour le bac
Oui.
de se préparer à l'avance pour travailler. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc, moi je conseille si vous êtes encore au lycée et que vous nous écoutez, si vous n'êtes pas déjà en passe, moi je vous conseille de tout de suite vous commencer à vous préparer.
C'est important, ouais.
Tu m'as parlé de mémorisation et je voulais revenir un peu dessus. Donc toi, tu as soulevé à quel point c'était important de savoir bien mémoriser. Comment tu faisais toi pour mémoriser exactement?
Alors moi, il faut savoir que j'ai un TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et ça fait que je ne peux pas rester devant une feuille en noir et blanc avec 3 tonnes de texte et la lire et en tirer quelque chose. Je vais lire cette page et après l'avoir lue, je vais avoir retenu rien parce que je suis distrait ou parce que c'est justement pas beau à voir, ça, le cours m'attire pas. Donc, j'avais trouvé justement cette application qui est une application qui fonctionne sur ordinateur, téléphone, iPad, tout ça, qui s'appelle Anki Flashcards. Et en tout cas, moi, qui m'a été très utile pour apprendre des choses par cœur, c'est en fait des cartes comme si tu avais une carte en papier où tu mets une question derrière et tu mets la réponse où tu mets plutôt la question devant et la réponse derrière. Et comme ça, tu peux te les
Ouais.
passer quand tu es dans le bus, quand tu es dans le train. Tu peux te passer qu'à certaines cartes. Et l'avantage de cette application, justement, c'est que tu l'as sur l'ordinateur, sur le téléphone, et ça calcule en fait en fonction de quelle était ta réponse. Tu dis si j'ai pas du tout réussi cette réponse. Je pense que ma réponse était correcte et c'était facile, il y a trois choix. Et en fonction de quel bouton tu as appuyé, la carte va revenir dans plus ou moins de temps. Donc c'est vrai ça pour construire une mémoire à long terme. C'est très efficace parce que, disons pour une fois, une carte que tu as eu une bonne réponse quatre fois de suite, elle ne va pas repasser avant une semaine et demie. Mais une semaine et demie, quand ça commencera à redevenir un peu flou, ça va la repasser de manière à ce que tu l'oublies pas. Et c'est aussi très dynamique. C'est hop là, je regarde, bonne réponse ou mauvaise réponse, et je fais la suivante. Donc c'est vrai que ça. Moi, étant facilement distrait, ça me permettait de m'ancrer, parce que je dirais que le rapport récompense effort est très direct, parce que c'est plein de
Ouais.
petites questions. C'est comme par exemple faire des annales. Moi, je suis un grand fan des annales. Moi, c'est quelque chose que je regrette justement parce qu'en Espagne ici, c'est impossible d'obtenir des annales, des examens en tout cas passés de ma fac. Et en passé, je travaille beaucoup avec ça parce que ce qui est bien avec les annales, c'est qu'une fois que tu as fait tous les exercices possibles, tu ne peux plus trop avoir de surprises.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est vachement intéressant hein, ce que tu as dit sur Anki. Donc moi, c'est un logiciel que je connaissais et on n'avait pas parlé plus que ça au podcast, mais on l'avait abordé très très vite fait. Donc je te remercie d'en avoir parlé plus. C'est vrai que c'est ultra intéressant. Et je trouve ça encore plus intéressant le fait que tu l'aies adapté à ta situation qui ne te permettait pas, par exemple, d'avaler des tonnes de poly, j'imagine. Donc c'est vachement intéressant. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont comme dans ton cas. Ça veut dire qu'ils vont. Une feuille de, enfin un poly ou quoi, ça donne pas forcément trop envie, alors que quand on se le gamifie un petit peu, c'est-à-dire on en
Voilà.
fait un petit peu un jeu,
Non, mais oui, c'est comme
ça
ça.
devient tout de suite beaucoup plus attrayant, quoi. C'est ça.
C'est vraiment bien. J'utilise toujours encore, hein. Ça m'a sauvé sur plusieurs examens, toujours en médecine. Et s'il y a un truc que je recommanderais, oui, ce serait bien ça.
Ok. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu étais grave en retard? Est-ce que tu veux en parler?
Je dirais oui. Un moment où j'étais super en retard, c'est au premier semestre. Enfin, en tout cas, je dirais que ma première passesse, j'étais en retard tout le temps. Donc ça, ce n'était pas forcément un bon exemple. Mais je dirais que j'étais en retard sur l'UE3 qui était à l'époque la physique du professeur Mariano Goulart à Montpellier. Et cette UE, c'est-à-dire qu'elle était très compliquée. Et j'avais souvent peu l'envie de la travailler, donc je disais toujours, je la travaillerai plus tard, je la travaillerai plus tard. Et en fait, je ne l'ai jamais travaillée plus tard. Enfin, j'ai travaillé en tout cas très peu avant l'examen. Et je dois dire que c'est vrai que ça m'a fait descendre dans mon classement. Je ne me souviens pas exactement combien j'étais en UE3, mais c'est vrai que ça m'a fait chuter pas mal au premier semestre. Et je regrette quand même pas mal de pas l'avoir travaillé. Mais d'un autre côté, je me dis, en travaillant moins celle-là, c'est peut-être ce qui m'a permis d'avoir des meilleurs classements dans les autres matières.
Oui, d'accord, ok.
J'ai du regret, mais je me dis, est-ce que finalement j'aurais été aussi bon dans les autres matières si j'avais consacré plus de temps à cette matière? Je ne sais pas.
D'accord. Oui, c'est vrai que bon, moi je recommande pas vraiment de faire des impasses.
Non, non,
Et
non.
d'ailleurs, dans les podcasts en général, je dis justement l'inverse. Je dis que les matières qu'on n'aime pas faire, malheureusement, c'est celles qu'il faut travailler le plus, parce que comme on n'a pas envie de les faire, on a tendance à les délaisser. Tu viens de me le démontrer.
Ben
Donc
justement,
ouais,
c'était les UE justement qui étaient le plus compliqué pour moi. J'avais un programme de travail qui était très léger, on va dire. Pas dans le sens où je travaillais pas, c'est que j'avais pas un emploi du temps en me disant oh, de 8 h à 10 h, je vais travailler cette matière. Ce que je faisais en général, c'est que j'avais tendance à me lever tôt le matin, en général vers 6 h. Je me préparais,
ouais.
j'allais à la fac à 7 heures. Et le matin, moi, j'ai tendance à être beaucoup plus efficace qu'en fin de journée. Donc, le matin, je m'occupais des UE qui allaient être énervantes à travailler, compliquées, les UE qui ne me motivaient pas du tout. Je les faisais le matin et après le repas, quand j'étais un peu plus fatigué, je faisais des UE qui me motivaient plus, des UE qui étaient peut-être moins théoriques et il y avait des exercices à pratiquer ou justement faire des QCM ou du Anki.
Bah c'est top, hein, ce que tu me dis là, c'est vraiment idéal. C'est aussi ce qu'on recommande à fond. Ça veut dire, quand on sent qu'on a l'énergie, mieux vaut faire les choses qui nous demandent le plus d'énergie. Plutôt que les trucs faciles qu'on aime faire, parce qu'après, on va se retrouver avec ce qu'on n'aime pas faire et on n'aura plus d'énergie.
Exact.
Et ça va être compliqué. Donc, bah, écoute, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Il faut prendre en compte ces cycles d'énergie dans la journée, parce qu'on sait tous que bon, il y a des moments où on a plus ou moins d'énergie. Il y en a, c'est par exemple juste après le repas,
Oui.
quand on est en pleine digestion. Bon, c'est pas le moment où il faut attaquer de l'UE7, quoi.
Oui, exactement, voilà.
Voilà, par exemple. Ok. Et du coup, par rapport à ce retard que tu as eu toute l'année et le fait de rater ta première PACES, comment ça s'est traduit sur ta motivation? C'est-à-dire que est-ce que tu as réussi à garder la motivation? Est-ce que tu avais des petites chutes à un moment? Ou comment ça se passait?
C'est-à-dire que après avoir eu les résultats du premier semestre, j'avais un classement qui était plutôt mauvais, on va dire. J'étais, je crois, dans les 1500, ce qui me permettait en gros de rien avoir. Donc, j'étais vraiment découragé à ce moment-là et du coup, j'ai pas fait le second semestre. Je suis allé passer 2 mois en Espagne où je n'avais pas un très bon niveau d'espagnol, mais je suis allé faire 2 mois en Espagne. Je me suis immersé, j'ai parlé que espagnol, j'étais entouré que par des Espagnols. Et ça m'a permis surtout de prendre une pause de la PACES. Je pense en tout cas, je ne conseille pas forcément le faire parce que le second semestre a été une surprise après. Mais en tout cas, moi, je trouve que mentalement, ça m'a fait du bien parce que je sortais d'un semestre où j'avais dormi 4 heures par nuit, où j'étais tout le temps stressé. Je ne pense pas qu'en tout cas, continuer le second semestre aurait été très bénéfique pour moi, parce que ça m'aurait sans doute emmené nulle part niveau classement, et niveau moral, ça m'aurait sans doute un peu baissé.
Ok, donc en fait, tu as pris une petite pause après être sûr de rater cette première année. Tu t'es dit, bon, allez, je prends une vraie pause. Et cette vraie pause t'a permis de te remotiver à faire une deuxième année, c'est
Voilà,
ça?
ça m'a permis de me motiver à faire une deuxième année et je le dois surtout à certains amis, notamment Benjamin Plusquoi, que tu avais eu dans
Qui
les
est. Qui...
podcasts, je crois.
Ouais, je l'ai eu là, c'est ça.
Et bah justement, au début de la deuxième année, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Parce que je travaillais seul chez moi toujours. Il m'a dit, mais viens travailler à la fac avec moi, je travaille avec un groupe de potes. C'est super sympa, viens avec moi, on va voir. Et tu me dis si ça te plaît. Et je suis arrivé, c'est vrai, dans une deuxième année où la motivation était peut-être moins grande parce que je savais à quoi m'attendre. C'était plus de l'appréhension en fait que de la non-motivation. Mais justement, en fait, trouver un groupe de travail et travailler avec des gens, ça m'a permis de développer des habitudes, développer un rythme régulier. Parce que, en plus justement d'aller à la fac tous les matins à 7 heures et de travailler, déjà, j'avais une raison d'aller à la fac. Je me disais, oui, j'ai travaillé, mais aussi, je vais pouvoir passer du temps avec mes amis. Donc, c'est vrai que ça reste une motivation quand même en plus. Et en tout cas, moi, quelque chose que je pense est un grand atout à travailler en groupe. C'est que souvent on trouve en PACES de la compétition, parce que finalement c'est un concours, ce qui est normal, mais la plupart du temps c'est de la compétition qui n'est pas forcément très saine, plus de la compétition méchante. Et moi ce que j'ai aimé justement avec mon groupe d'amis, c'est que on se faisait travailler entre nous, à chaque fois qu'il y avait une colle au tutorat, on taffait ensemble, on se disait ouais, non, moi je vais avoir un meilleur classement que toi. On se faisait travailler entre nous. C'était quelque chose en fait qui était vraiment pas désagréable à travailler parce que on avait déjà le rythme et finalement c'était notre vie, c'était la PACES. On
C'est
n'avait
ça.
que
Ouais, vous
ça.
vous tirez vers le
On
haut,
se tirait vers le haut.
vous vous tirez les. C'est ça, c'est
Et
ça.
ça, je trouve que c'est essentiel parce que moi déjà, ça m'a aidé académiquement, mais ça m'a aidé mentalement. C'est vrai que je dirais pas parce que c'est vrai que j'ai tendance. Je pense que j'ai tendance, quand je regarde mes passés, c'est de me souvenir surtout des bonnes choses, ce qui est pas mauvais, mais en tout cas, je me souviens de la deuxième PACES, ne pas être autant déprimé à l'idée de devoir aller à la fac ou l'idée de devoir aller à la prépa, parce que justement, j'avais des bonnes choses qui m'attendaient là-bas et finalement un bon groupe de potes qui s'entraidaient pour tout.
Ok, donc pour toi, ça a vraiment fait,
Ça fait la
c'était un
différence.
game changer. Ça veut dire que t'es, voilà, c'était passé de un peu seul et déprimé, excuse-moi du tableau, hein,
Non,
mais
non, mais c'était
de
clairement le
seul et un
cas.
peu déprimé chez toi, à motivé par le tumulte d'un groupe, on va dire,
Exactement.
et l'envie de réussir ensemble, quoi. C'est ça?
C'est...
Ok.
Et
Tu m'as
après,
parlé de, oui.
non, je voulais
Vas-y,
juste
dis-moi.
dire aussi, attends, on parlait de travailler avec des potes. Évidemment que travailler avec des amis, c'est très bien, mais après, je ne travaillais pas tout le temps avec eux. S'il y avait beaucoup de travail personnel, on s'aidait à réviser pour certains examens, on allait à la bibliothèque ensemble. Mais quand il s'agissait de travailler, d'apprendre, c'était dans mon coin, j'apprenais et après on s'interroge avec des amis.
Oui, d'accord, oui, bien sûr, c'est pas le travail de tous les jours qui est fait avec les amis. J'imagine que de ton côté, tu devais approfondir de toi-même les notions
Exact.
où tu avais des lacunes. Et après, tu te testais, j'imagine, plus avec ce groupe d'amis, c'est ça?
Voilà, on se testait plus.
Ok. Tu m'as parlé de ton planning juste avant, là, pour revenir un peu en arrière. J'aimerais bien savoir, c'était quoi ta journée type?
Ma journée type, ben justement, c'est ça commençait par un lever à 6 heures en général. J'aimais
Ouais.
bien prendre mon temps pour justement pour me réveiller, pour me préparer pour aller à la fac, parce que finalement, ben, du temps personnel, j'en avais pas trop à la fin. Donc après, tout le monde le dit, prendre un petit déjeuner, c'est très important le matin. Je connaissais certaines personnes qui, petit déjeuner pas, qui se levaient et qui allaient directement à la fac. Et c'est vrai
Oh
que
là là.
moi, partir à la fac en ayant pris mon temps, en ayant pris ma douche, ça me permettait d'être beaucoup plus efficace et aussi d'y aller en vélo. Le vélo, ça a été une grande découverte. Enfin, j'utilisais déjà le vélo avant, mais aller à la fac en vélo, c'est-à-dire que le matin, j'arrivais à la fac et j'étais prêt parce que je venais de faire un peu d'effort pour aller à la fac. Ça me permettait d'être concentré. Et le soir, quand tu as eu une journée de 11 heures de travail où tu n'en peux plus, retour à 22 heures, rentrer en vélo super vite, il n'y a rien de mieux. C'est vraiment
Ah ouais,
le
je vois.
repos
Le
en
petit moment de
fait.
liberté,
Voilà.
la déconnexion du travail acharné.
C'était un peu mon sport, on va dire.
Ok.
Et.
Ah oui, donc c'est comme ça que tu as pu lier un petit peu, se vider la tête, mais en même temps rester productif.
Voilà.
C'est intéressant.
Et après, j'utilisais le vélo pour aller partout quand j'allais travailler chez des amis. Donc, ce n'était pas forcément le même trajet. Donc, c'était toujours sympa. C'était vraiment un bonus, ça. Ça me permettait de, quand je rentrais chez moi, je ne travaillais pas chez moi en général quand j'entrais ou très peu, parce que je préférais rester à la fac, travailler tard, en général, ou 21 h quand les salles de travail fonctionnaient, ou 21 h quand les salles de travail étaient ouvertes. Ou en général 23 heures quand la BU était encore ouverte jusqu'à 23 heures.
Ok, ouais, donc ça c'était l'époque, la belle époque où
Voilà, où
il
il
n'y
n'y
avait
avait
pas
pas
la
de Covid.
Covid. C'est vrai que maintenant c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde doit apprendre à s'organiser et travailler seul chez soi. Bon, il existe des solutions, on peut faire des meetings sur Zoom ou quoi.
Oui, évidemment. Et surtout, les
Mais moi,
profs, ils faisaient déjà des vidéos, de toute façon. Donc, je pense que ça ne change pas grand-chose. Au cours de PACES, moi, j'ai jamais été une personne qui allait trop en amphi dès qu'il y avait le cours, parce qu'on avait surtout accès au cours après et que déjà, j'ai du mal à me concentrer. Si je fais ça en direct, il faut que je sois super attentif toute la longueur. Je peux pas revenir en arrière si j'ai pas entendu quelque chose. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas trop changé avec la PACES. Donc, c'est déjà un point positif, j'imagine, au Covid, même s'il y en a très peu. C'est que ça n'a pas changé grand-chose.
Non, c'est vrai. C'est vrai par rapport au fait qu'on est un peu seul devant sa copie, enfin devant ses polis et tout, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, tu as dit un truc où ça m'a un peu étonné. Tu me disais que tu te levais à 6 heures. Donc Dans ta journée type, comment t'organisais? Du coup, tu rentrais, tu m'as dit, à 22h, après avoir passé la journée
Ouais, 22 h
à
ou
travailler.
23 h. Et en général, je m'endormais avant d'aller au lit à minuit. Parce que justement, après une journée où tu as la tête au carré, je rentrais en vélo, je pédalais comme un malade. Et j'arrivais chez moi, je mangeais et je me posais au lit.
Ok, donc
Donc,
6 heures de sommeil, pour toi, c'était suffisant.
c'était suffisant, mais après, il faut savoir que les heures de sommeil, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de 8 heures de sommeil, il y en a qui peuvent en avoir besoin de 4. Donc, c'est quelque chose qui varie, mais c'est quelque chose après qu'il faut voir soi-même. En général, moi, ce que je faisais pour savoir si j'étais en retard sur le travail ou si j'avais assez de sommeil, c'est que le week-end, en général le dimanche, quand j'allais pas à la bibliothèque ou j'allais pas travailler chez un ami, c'est que je mettais pas mon réveil. Et en général, quand tu mets pas ton réveil, ou tu vas te réveiller justement à l'heure à laquelle tu te réveilles d'habitude, et ça veut dire que tu as assez de sommeil, ou tu vas te réveiller 3 heures plus tard, et c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, faut que tu ajoutes certaines heures à ton sommeil.
Ok. Et pour toi, ça allait. Pour toi, aucun souci
Aucun souci, je dirais
avec 6
pas, mais
heures.
bon, j'étais fatigué, mais c'était le prix à payer, hein, PACES. Et puis, ça ne me dérangeait pas vraiment de rester à l'Uni jusqu'à 23 h, parce que justement, c'était tranquille, il y avait moins de gens, je pouvais travailler tout seul dans une grande salle. Donc, je préférais avoir moins de sommeil et travailler à la fac un peu plus tard.
Ok. Et niveau des pauses dans tes journées, donc tu me disais que tu travaillais à la BU, des fois j'ai des amis, des fois à la fac. Comment t'organisais tes pauses avec ton groupe?
Alors, c'est-à-dire que les pauses où on les prenait tous ensemble, mais en général, ça a jamais été des pauses de plus de 10 minutes, à part quand on doit bien sûr manger ou quand on va se déplacer à la prépa ou au tutorat, évidemment, ça nous prend plus de temps. Mais en général, on faisait des petites pauses de 10 minutes où on sortait justement, mais avec notre groupe de potes, on parlait un peu justement des choses qu'on travaillait, vu que c'était tout ce qu'on avait. Mais en général, je dirais, pendant la matinée, 2 pauses, pendant l'après-midi, 2 pauses, une pause plus grande pour manger. Et c'était en général, oui, le nombre de pauses que je prenais à la journée, 5 pauses, incluant le repas.
Ok, je vois à peu près. Donc oui, un rythme de pause par-ci par-là quand on sent le besoin,
Voilà, surtout
mais
quand on
pas trop
ressent le
long pour
besoin.
pas se déconcentrer, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, maintenant, je suis chaud qu'on parle un petit peu de médecine en Espagne, parce que du coup, c'est quand même un parcours pas commun, le tien.
Et oui.
Comment t'es venu l'idée? Donc, bon, si on récapitule, tu finis ta deuxième année de PACES, tu réussis ou tu rates?
Alors, je suis en train de... C'est-à-dire, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je suis en train de finir ma PACES. Et j'avais mon père, justement, d'un côté qui était plutôt appréhensif sur ce qui allait se passer. Donc, il m'a dit, oui, bon, mais tu vas faire des tests pour essayer de rentrer en Espagne en dentaire ou en médecine. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait pas trop, parce que, évidemment, je voulais faire médecine, mais c'était quelque chose qui était un peu... Qui faisait un peu peur, quoi. J'avais mon groupe d'amis, j'étais bien, on parlait de quand on allait être à la fac ensemble, parce que mon groupe d'amis, en tout cas une partie du groupe d'amis travaillait pour pharma, et moi aussi, du coup, le second semestre, j'ai travaillé pour pharma, parce que c'était déjà plus réaliste, hein, pour mes capacités, on va dire, mais surtout parce que je trouvais ça super intéressant en général, tout ce qui est chimie. On avait BCM, une matière, j'ai terminé 14e dans cette matière. Ça, j'avais vraiment kiffé. Et donc, j'étais parti justement pour faire pharma. Mon père, justement, m'avait fait passer des tests d'entrée à l'Université internationale de Catalogne en dentaire et en médecine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai eu pharma. Et j'étais très content, mais j'ai dû justement faire une décision. Du coup, est-ce que je reste en pharma avec mes amis ou est-ce que je pars à l'étranger faire ce que je voulais faire déjà à la base, mais
Ouais.
quelque chose qui aurait été plus compliqué parce que les cours sont en espagnol, ça reste médecine, j'aurais dû partir seul. Mais finalement, je suis venu à la réalisation que, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal d'étudier à l'étranger, de changer un peu de Montpellier, parce que ça faisait 20 ans que j'étais à Montpellier. Et du coup, j'ai pris la décision de partir justement faire médecine en Espagne. J'ai eu les résultats le lendemain du concours du second semestre. Et j'avais passé justement cet examen en pensant que jamais de la vie j'entrerais. J'étais vraiment dans ma PACES, dans Pharma à ce moment-là, concentré là-dessus. Et mon père m'a dit, bon, ben, on prend la caisse, on va la journée à Barcelone passer l'examen et on rentre et ensuite tu taffes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'avais même pas préparé, je savais juste parler espagnol. Et finalement, ben, j'avais complètement oublié que j'avais passé cet examen, j'avais que ma PACES en tête et les résultats sont tombés, j'ai été pris en médecine. C'est vrai que ça a été la panique du coup parce que il y avait tout ce côté de la pharma qui m'intéressait avec toute la chimie, toute la bio, mais aussi j'avais le côté humain de la médecine qui me plaisait beaucoup et c'était quand même ce que je voulais faire à la base. Donc finalement,
Ouais.
j'ai pris la décision d'aller en médecine, où à la fin, justement, je devais faire le choix à la fin de la première année si je revenais en pharma, parce que j'étais techniquement pris en pharma et j'avais droit à une année de césure. Et en fonction de, justement, si ce n'était pas trop compliqué pour moi, si ce n'était pas la dépression complète, toutes ces raisons, du coup, il fallait que je jauge la première année de médecine en Espagne, voir si c'est quelque chose que je pouvais faire et si c'était quelque chose qui me plaisait. Et je dois dire, ça a été quand même une très bonne surprise parce que il y avait tout ce côté qu'on ne voit pas en PACES, qui est le côté pratique. C'est-à-dire que dès la première année, on a fait des dissections. Je dois dire, peut-être 60% de nos cours, c'était des TD en petits groupes. Les gens en Espagne sont super sympas, il fait beau, donc j'ai fini par prendre la décision justement d'aller en Espagne et de rester en Espagne, qui est pas une mauvaise décision finalement.
Donc un sacré saut dans le vide hein, de ta part, parce que c'est d'un côté les amis et comment dire un parcours avec eux tout tracé, et de l'autre côté un saut dans le vide dans un pays où on n'a pas encore vécu,
Voilà,
dans lequel on
exactement.
ne sait pas comment les études se passent et tout. Donc un sacré saut dans le vide qui au final bah,
C'est bien
c'était une
passé,
bonne
ouais.
idée.
C'était, je dirais que c'était plus de peur que de mal. Après, je suis une personne en général très stressée. C'était quelque chose
Ouais.
qui était justement pas super bien pour ma PACES. Parce que j'ai tendance à trop stresser, ce qui peut m'handicaper quand je dois travailler en général, parce qu'il y a toujours le bon stress et le mauvais stress.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, la différence entre la France et l'Espagne pour la médecine? Donc, tu m'as parlé du fait que c'était très pratique. Ça, j'ai eu une invitée au podcast là, il y a quelques semaines qui, elle aussi, a fait ses études en Espagne et qui me racontait, elle aussi, que c'était beaucoup plus pratique, qu'il y avait plus de stages, que dès la première année, eux, ils avaient même carrément une espèce de faux hôpital avec
Oui, on a ça, nous
des
aussi.
faux patients en comment
Des
dire
mannequins, ouais.
en c'est des mannequins voilà et ça j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel parce que c'est vrai que nous bon, en France la première année c'est plus une sélection que vraiment un
Voilà.
apprentissage de choses concrètes. Tu peux nous en parler un petit peu, tu peux nous faire rêver.
Écoute, je ne sais pas si tu rêves de dissection en général, mais je peux te dire comment c'est. C'est vrai, au premier semestre, j'avais pas mal de matières différentes. J'avais anatomie, du coup, qu'il y a en PACES aussi. Anatomie, on avait, en général, mon emploi du temps ici, c'est l'après-midi, j'ai cours et le matin, j'ai des TP. Et en TP, du coup, en anatomie, on allait dans les salles de dissection, où on allait là-bas en groupe de 20 et on se mettait quatre par table et on avait une partie justement d'un cadavre, que ce soit l'épaule, que ce soit la ceinture scapulaire ou une jambe ou un tronc. Justement, ils nous donnaient ça et ils nous disent, bon, ben, aujourd'hui, on va travailler les muscles de la cuisse. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait par exemple une cuisse avec certains muscles qui nous laissaient justement disséquer de temps en temps, ça dépend des professeurs. Et le reste du temps, ils nous laissaient en tout cas manipuler les cadavres de manière à pouvoir se faire une idée justement de l'anatomie en 3D, qui est quand même très différent de ce que tu vois sur les livres ou sur les cours, sur des schémas. Tout est super sec, tout a la même couleur, c'est très compliqué de différencier tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant déjà d'un point de vue de motivation, parce que c'est bon, ça boîte de la dissection, c'est pas fun, mais surtout ça nous donne un avant-goût de la médecine qui est très intéressant.
Ouais, ça permet de valider l'idée que tu t'es dit, bon, médecine, c'est ça, mais ça se trouve, tu avais complètement
Voilà,
un
voilà.
préjugé. Et en fait, ça permet justement de valider que bon, bah, c'est bien ça que j'ai envie de faire ou pas, quoi.
Voilà,
C'est beaucoup plus concret.
déjà ça te permet de savoir si tu auras l'estomac pour tenir à la médecine.
C'est ça, c'est ça. Et dis-moi, si imagine, je suis là, moi, je suis au lycée, et je veux, enfin, je me sens pas de faire passer en France. Comment est-ce que je fais? Fais-moi un petit récap de A à Z. Comment je fais pour faire médecine en Espagne? Où est-ce que je me renseigne? Qu'est-ce que je dois regarder? À quoi je dois faire attention? Ce genre de choses.
Pour entrer en médecine, il faut déposer un dossier déjà. Je crois il faut avoir une note minimale au bac de 14 dans cette université. Et j'avais du coup plus de 14. On a fait justement un dépôt de dossier. Et en fonction de ton dossier, ils disent oui, tu peux passer le concours pour entrer dans la fac.
Ouais.
Je me souviens du coup être allé là-bas. Il y avait beaucoup de gens. J'avais vu beaucoup de Français. En général, il y a beaucoup de Français qui viennent passer les examens de dentaire ou de kiné dans cette fac. Mais c'est vrai qu'en médecine, il y avait pas mal de Français, mais je me suis retrouvé à être le seul Français dans ma classe. Donc, bon, un peu de déception, mais bon, ça arrive. C'est parce que ils ont sur une promo de 100 personnes, 90 places qui sont réservées pour des Espagnols et ils ont 10 places pour des étudiants étrangers.
D'accord,
Donc c'est vrai que si
ok.
tu es étudiant étranger, ils vont te donner plus de facilité. Ils vont en tout cas t'aider parce que tu as
Il y
10
a un
places
petit
qui sont
quota, quoi.
réservées pour toi. Donc même si tu as des notes
C'est
un peu
ça.
inférieures à des personnes qui sont nées en Espagne, tu peux toujours rentrer. Et c'était du coup un examen, je dirais même de niveau PACES, en tout cas pour ce qui est biochimie un peu mathématique, pas trop, et chimie, c'est du niveau PACES. Et après, il y avait de la physique niveau lycée. C'est quelque chose qui j'ai eu un peu de mal justement parce que c'était de la mécanique et je n'avais pas fait de mécanique depuis 2 ans. Mais après, le reste des examens, c'est surtout des examens de personnalité, des tests psychotechniques. Donc, rien de méchant.
Ok, donc s'ils doivent se préparer, c'est plutôt préparer les matières scientifiques propres à la médecine
Oui.
et un peu de base de physique et de
Mais
maths,
oui,
quoi,
parce
j'imagine.
qu'en Espagne, ils quittent le lycée avec en tout cas un niveau plus élevé en chimie et en bio que nous.
Ok, et par rapport à la langue, est-ce que ça a été une barrière pour toi ou est-ce que justement avoir fait ce petit séjour avant d'y aller pour de bon, ça a suffi?
Je ne sais pas si ça suffirait pour tout le monde. J'étais pas forcément mauvais au lycée en espagnol. Je dirais que j'avais un niveau moyen. Mais c'est surtout le fait d'être venu en Espagne et de m'immerser, de m'entourer juste par des Espagnols et devoir parler du coup espagnol pour survivre. C'est ce qui m'a quand même permis en tout cas d'apprendre très rapidement l'espagnol, surtout en premier de le comprendre et surtout de le parler. Donc je terminais, finalement, je sortais de 3 mois en Espagne avec un niveau en tout cas, si on parle de grammaire en espagnol très mauvais. Mais je sortais d'ici où je pouvais tout comprendre et je pouvais m'exprimer auprès de n'importe qui en Espagne et eux, ils pouvaient me comprendre très bien.
D'accord. OK. Et par rapport à Barcelone, t'as pas eu un problème avec le dialecte local?
Ah, ça, c'est vrai que ma fac s'appelle l'Université internationale de Catalogne, mais tous les cours de médecine sont en espagnol, en tout cas la première année, et à partir de la deuxième année, si les professeurs veulent faire des cours en catalan, ils peuvent faire des cours en catalan.
Ah,
Donc
voilà.
ça, c'est vrai
Et là,
que
c'est pas du tout pareil.
non, c'est pas du tout pareil, mais en général, je suis rarement tombé sur des profs qui étaient en tout cas cons au point de dire non, non, tu, même si tu comprends pas le catalan, je vais continuer à parler en catalan. Donc c'est vrai qu'en général, il suffit de demander, ils font oui, bon, d'accord, je parlerai en espagnol.
D'accord,
Mais
ok.
aussi un autre problème avec le dialecte et aussi avec la Catalogne, c'est bon, c'est pas forcément un problème qui est très pressant, mais si un jour la Catalogne devient indépendante, ça risque d'être compliqué pour en tout cas pour la valeur de mon diplôme de médecine et en tout cas du diplôme de médecine des gens qui sont en Espagne actuellement, en Catalogne actuellement.
Ah, tu veux dire que ce serait plus un diplôme européen, que ça deviendrait
Ça dépend de beaucoup de
un
choses,
diplôme.
mais si jamais la
D'accord.
Catalogne devient indépendante et quitte l'Europe, ça reste quand même une de mes préoccupations parce que je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Donc il y a quand même une incertitude de ce côté, mais qui est, à mon avis, d'ici 10 ans, je ne sais pas s'il va se passer grand-chose.
Puis après, honnêtement, Martin. Pour te rassurer, enfin, je pense que tu vas développer une expertise certaine qui fait que diplôme ou pas diplôme,
Oui, de toute
tu seras
façon,
recherché, quoi. Voilà.
ils offrent aussi de toute façon des opportunités de travail en Amérique du Sud, au Canada.
Voilà.
Donc ça, je pense que ça ne changera pas de toute façon.
Ben justement, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'allais justement transitionner là-dessus pour demander, c'était quoi tes plans là, du coup, pour la suite? Il te reste combien de temps à faire encore en Espagne? Et après, est-ce que tu as des idées pour ce que tu veux faire après?
Ben, c'est un peu un sujet. Pas forcément flou, mais un sujet compliqué dans le sens où ce que l'on pouvait faire, en tout cas avant, en médecine en Espagne, c'est si tu es français, tu peux passer justement l'internat espagnol qui s'appelle le MIR.
Ouais.
Tu pouvais passer celui-là, mais tu pouvais aussi passer au bout de 6 ans l'examen d'internat français. Sauf qu'avec les réformes, l'examen d'internat n'existe plus. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, je ne sais pas comment ça va fonctionner vu que c'est tout nouveau, il faut qu'ils s'organisent. Mais c'est vrai que j'avais déjà le choix ou de rester et de me spécialiser en Espagne ou de rentrer en France au bout de 6 ans pour faire justement ma spécialisation en France. Autre possibilité était de faire mes 10 ans en Espagne, me spécialiser en Espagne. Et vu que l'Espagne fait partie de l'Europe, avoir un diplôme de médecin qui est valable partout dans l'Europe.
D'accord. T'es pas encore au clair sur ta spécialité, genre dans quoi tu veux te spécialiser, tu sais pas encore.
Je me dis souvent qu'il faut déjà que je sois témoin de chaque spécialisation, que je puisse suivre un médecin dans sa spécialisation, savoir si, même si j'aime l'idée de cette spécialisation, est-ce que j'aime vraiment le métier, parce que c'est des choses que tu pourras savoir vraiment quand tu auras travaillé justement avec un professionnel comme ça, savoir si ça va te plaire. Ça, c'est justement tout le but de l'internat.
Ok. Bah, je me disais oui, avec les stages aussi que tu vas peut-être pouvoir faire par la suite.
Oui, l'année prochaine, j'ai déjà plein de stages. J'en ai eu l'année dernière. C'est bien. C'est vraiment bien parce que ça change un peu de la théorique, et puis les professeurs te placent justement dans un hôpital. Ils disent, vas-y, tu vas suivre cette personne toute la journée ou pendant 2 jours. Et ça te permet de voir comment les hôpitaux fonctionnent. Et la plupart du temps, les professionnels de santé, tous les médecins sont super sympas. Ils me disent, ouais, tu veux ausculter ce patient, vas-y. Tu veux poser les questions. Ça dépend parce que j'ai fait des stages chez des généralistes, j'ai fait des stages en chirurgie. Donc c'est vrai que déjà, ils te permettent de te donner une idée de ce que c'est vraiment la médecine et qui est quelque chose de très important, en tout cas si tu vas t'engager là-dedans pour 10 ans.
Ouais, carrément, carrément. Mais justement, là, c'est bien que tu dises ça parce que je voulais te demander juste après, qu'est-ce que tu dirais à un P1 qui hésite à se réorienter en Espagne? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais que de toute façon, se réorienter un pays qui veut se réorienter en Espagne.
Ouais, un peu comme toi, ça veut dire qu'il lui veut faire sa première. Imagine, il réussit pas sa première année de médecine. Son passe, du coup. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu lui dis pour le motiver à faire son passe en Espagne?
Je pense que tester l'Espagne, c'est il faut au moins essayer de passer l'examen d'entrée, voir la fac, voir la langue s'il y a plus de facilité ou plus de difficultés, pour en fait savoir déjà si la personne est capable déjà d'entrer en médecine en Espagne, parce que les cours sont en espagnol, donc déjà ça demande quand même un petit peu d'effort et ça reste un concours aussi. Mais je pense que de toute façon, après une passe ratée, ce serait dommage de ne pas essayer, surtout si c'est quelque chose, si médecine est une carrière que la personne veut faire absolument, ça vaut énormément le coup d'essayer parce que moi, finalement, je me retrouve dans cette fac et j'ai très peu de regrets.
Ok, bah écoute, moi c'est bon, ça me va très bien.
Bon, oui, parfait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi dans l'idée que bah il y a rien à perdre en fait.
Voilà, il n'y a
Il y
rien
a
à
rien à
perdre.
perdre. C'est si on sent que bah c'est pas possible en France, bah il y a toutes les chances de retenter en Espagne pour plus tard, comme tu le disais, revenir en France une fois qu'on s'est spécialisé, une fois qu'on est déjà plus, comment
Bien sûr.
dire, qu'on est plus sûr de ce qu'on veut faire. Voilà, on a toujours possibilité de revenir. Donc, si ça marche pas en France, essayez en Espagne. Je pense que ça peut être une bonne solution. Attention, par contre, à bien écouter les conseils de Martin sur qu'est-ce qu'il faut préparer pour le concours,
Ouais.
quoi. Ok. Allez, dernière petite question pour toi. Cette fois-ci, c'est plus en mode de la motivation que je cherche à tirer de ce que tu vas dire.
Vas-y.
Donc là, imagine, enfin, tu te rappelles de toi, de comment tu te sentais quand tu avais raté ta première
Ouais.
passesse. Imagine, moi, je suis un P1 qui vient de rater ou qui est en train de rater ma première année. Je suis avant le concours du deuxième semestre. Comment tu me remotives? Qu'est-ce que tu me dis?
Je remotiverai de toute façon. Travailler pendant le second semestre, ça servira toujours. Déjà à développer un rythme, déjà à prendre de l'avance sur si jamais tu as une opportunité de repasser cette année de PACES, tu m'avais dit qu'on pouvait éventuellement. Et c'est aussi bon, quelque chose qui servira toujours. Tu vas apprendre des sciences, des choses qui te serviront sûrement si tu passes des examens d'entrée dans une autre école, si la passe a été ratée. Donc c'est. Je pense qu'en tout cas, il faut continuer le second semestre, à part si évidemment c'est un état de dépression complet. En tout cas, vaut mieux dans ce cas-là prendre du temps pour soi et surtout essayer de recommencer plus tard quand la personne est mieux mentalement ou moins perdue et sait ce qu'elle veut faire 100%.
Ouais, comme la pause que tu avais pu faire toi
Voilà, exactement.
à partir de moi. Ouais, ok.
Mais en tout cas, il ne faut pas
Donc,
croire
ouais.
qu'il ne faut pas faire le second semestre si on a raté le premier, parce que ça reste vraiment des choses qui serviront plus tard, en tout cas même dans la vie professionnelle, comment supporter des grandes heures de travail, comment travailler en groupe aussi. Bon, c'était dans mon cas, peut-être pas pour tout le monde, mais ce qui est important, c'est que on tirera toujours quelque chose. D'un second semestre ou d'une année de PACES.
Merci pour ces beaux mots, Martin. Je suis 100% d'accord avec toi. Et bah écoute, moi je souhaite de bien réussir
Ben,
bah,
merci
pour la
beaucoup.
suite, de te régaler dans les prochains stages et de trouver un peu la spécialité qui te fait vibrer. Et
Ben, écoute, j'espère que je trouverai ça. Hein.
en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment
Ben,
cool.
merci à toi de m'avoir invité. Hein.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si t'as bien aimé, comme toujours, la meilleure façon de soutenir, c'est de mettre 5 étoiles au podcast. Comme ça, il sera mieux référencé et ça nous aidera à trouver des nouveaux invités. D'ailleurs, si tu penses que ça peut aider un ou une de tes potes, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.